Radio Barque, le 18e de cette 8e saison, nous avons invité à Grand Sud FM Viviane Thivant, écologiste. Bonjour.
Bonjour.
Alors Viviane Thivant, vous êtes, depuis quelque temps maintenant, on vous connaît un peu mieux parce que vous êtes conseillère municipale à la ville de Narbonne. Pour cette même raison d'ailleurs, parce que vous êtes en tête de liste, vous êtes conseillère communautaire au Grand Narbonne.
Oui.
Donc ce qui fait que vous siégez à un certain nombre de conseils. Première chose quand même peut-être, Viviane Thivant, comment devient-on, en tout cas comment vous, êtes-vous devenue écologiste? Comment avez-vous attrapé la flamme, si je puis dire, et la volonté de s'engager?
Oui, alors moi, c'est réellement la science, en fait, le savoir.
Professionnellement, vous?
Oui, en fait, j'étais journaliste scientifique pendant très longtemps et j'ai beaucoup travaillé sur les relations entre la science et la société. Je me suis aussi beaucoup occupée d'environnement dans les journaux dans lesquels j'ai pu travailler, que ce soit La Recherche ou Le Monde. Et j'ai aussi eu l'occasion de beaucoup voyager, d'aller voir sur le terrain, d'aller enquêter, notamment sur des problématiques de pollution, sur des problématiques de changement climatique. Et donc j'ai eu l'occasion de faire des enquêtes très approfondies qui paraissaient dans des grands journaux et dont l'impact en fait était relativement minime, notamment sur les politiques. J'ai eu l'occasion aussi de suivre des COP et de me rendre compte que finalement les discussions et la connaissance accumulée par les scientifiques sur le changement climatique n'arrivait pas jusqu'aux politiques. Il y avait cet étage-là qui dysfonctionnait et moi, en tant que maman, j'ai pas pu à un moment rester dans cette position de témoin. Et c'est pour ça que je me suis engagée en tant qu'écologiste. Parce que si en tant que journaliste, mon témoignage ne suffisait pas à faire bouger les choses, peut-être qu'en tant que militant, j'arriverais à faire accélérer les choses. C'est pour ça que je me suis engagée il y a 2 ans et demi maintenant.
Et alors, ce que vous signalez, Viviane Thivant, qui semble, ce que je décrirais presque comme un goulet d'étranglement entre d'un côté la connaissance scientifique et puis le passage vers les hommes d'action et notamment les élus, est-ce que vous arrivez à l'expliquer? Ça veut dire que les élus ne sont pas du tout réceptifs ou rejettent carrément ces idées?
Alors, il y a beaucoup de phénomènes. Je pense que quand on annonce des mauvaises nouvelles, il y a un déni déjà qui apparaît. Ensuite, chez les élus, il y a souvent un problème de connaissance de ce que c'est que la science. Il n'y a pas forcément une culture scientifique très importante. Et du coup, en fait, la science est finalement une source d'information comme d'autres. Et il y a d'autres, justement, sources d'information qui sont plutôt des lobbies, des industriels, pour qui le changement climatique, en fait, n'est pas très favorable, qui ont plutôt intérêt à retarder finalement les actions politiques et qui vont abonder et on va dire inonder les politiques d'informations qui sont contradictoires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas un scientifique qui dit que le changement climatique n'existe pas. Il n'y a pas un seul scientifique qui dit que l'homme n'est pas responsable. Il y a des rapports qui ont été produits par des experts, des centaines d'experts qui se sont mis d'accord en disant, si jamais on voulait enrayer ce phénomène, il faudrait faire ça. C'est un document qui fait une trentaine de pages pour les politiques à lire. Et pour autant, force est de constater que la connaissance, elle n'est pas passée. Donc c'est pour ça qu'il y a des activistes, c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'engagent pour l'écologie, pour forcer finalement ces politiques à sortir de leur position de confort.
Donc c'est un combat fondamental finalement qui va perdurer.
Oui. Oui, je pense. Et je pense que c'est un défi.
Qui est presque dans la nature des choses.
Oui, et je pense que c'est un défi. Aujourd'hui, finalement, il n'y a pas... À part les citoyens, qui peut porter ce message de « on doit pouvoir assurer un avenir à nos enfants ». Donc c'est à nous, en tant que citoyens, à un moment de sortir de cette neutralité, d'exiger de nos politiques qui mettent en œuvre, qui prennent des décisions qui puissent permettre en fait à notre société d'évoluer dans un sens qui soit moins néfaste pour la planète et donc pour la société. Parce que tout ça, ça a des impacts pour la nature, ok, mais ça a aussi des impacts très directs pour les gens.
Pour l'homme, pour la société,
pour nous, voilà.
Oui, pour la société. Alors on va revenir au cours de l'émission sur des faits plus précis, plus concret. Restons dans la notion d'engagement. À partir de là, vous vous dites, il faut s'engager comme citoyen puisque les élus n'écoutent pas trop. Donc, il se trouve qu'à Narbonne, vous avez fait partie, vous faites toujours partie d'ailleurs d'un groupe, d'un collectif qui s'appelle toujours les Robines. Au démarrage, une action collective qui a consisté à s'opposer à la construction de l'aréna dans la ville de Narbonne. Entre autres choses, enfin, ou par, non, ou par des... le biais d'une autre association. Rappelez-nous un peu l'historique qui a fait cristalliser ces choses.
Alors, l'ARENA, c'était effectivement, il y a un collectif de citoyens qui s'était aussi mobilisé contre ce projet qui était jugé trop coûteux et pas du tout dimensionné pour notre ville. Donc, de la même façon que moi, j'ai eu un choc militant par rapport au reportage que j'ai pu faire, eh ben, pour toute une catégorie des Narbonnais, ce choc, il arrivait avec l'ARENA. Et c'est vrai que, donc, il y a eu cette association qui s'appelle Touche pas à mon parc, et une partie des militants qui avaient découvert justement le militantisme écologiste à ce moment-là, ont rejoint les Robines quand les Robines sont nées, en début d'année 2020, si je ne m'abuse.
Oui, donc c'est parti d'un fait finalement qui n'était pas purement écologique. La construction de l'ARENA, c'était pas purement une menace pour la planète.
Non, mais je pense que ça posait des questions sur qu'est-ce que c'est qu'une priorité aujourd'hui, à l'heure où justement les villes doivent s'adapter, quelles sont les priorités et où est-ce qu'on doit mettre l'argent en tant que politique. Et je pense que ce choc-là, il est arrivé, en tout cas pour une partie des militants ici. Mais chez les Robines, il y en a qui viennent de là, il y en a qui viennent pour des raisons complètement différentes. Il y en a qui ont aussi envie d'avoir des logiques économiques différentes, qu'on puisse s'investir davantage sur la transition, qui est en fait aussi une source d'opportunités. Il y a, en fait, investir sur la transition, essayer de réfléchir à nos pratiques, c'est aussi se donner la chance de pouvoir créer des économies nouvelles, des entreprises nouvelles. Il y a aussi toute une partie des Robines qui viennent plutôt de ce courant-là.
Oui, et donc avec un enracinement local et donc une volonté là d'agir au niveau local, de proximité.
Oui, clairement, les Robines, c'est un groupe municipaliste. L'idée, c'est vraiment de travailler à l'échelle de la ville et de faire avancer concrètement une vision un peu différente d'une ville qui sera à la fois écologique et solidaire. C'était notre slogan à l'époque. C'est d'essayer de faire en sorte que qu'on mette en œuvre des politiques audacieuses, différentes, pour pouvoir mieux vivre dans notre ville.
Alors vous vous dites, on y va, on s'engage véritablement. Traditionnellement, en tout cas en France et depuis longtemps, les Verts travaillent plutôt avec la gauche. Donc vous avez tenté quelques rapprochements et quelques négociations avec la gauche au niveau local. Ça n'a pas marché. Vous êtes parti de façon autonome.
Oui, alors ça, c'était avant les Robines, où effectivement, en tant que LV, on a, sur les 6 mois qui avaient précédé la municipale, on a essayé de faire un groupement des forces de gauche, comme on dit aujourd'hui. Ça a failli aboutir, sauf que, les organisations n'ont pas permis que chacun se sente respecté, et du coup, il y a eu un moment où il y a eu une scission. Donc nous, on avait déjà donné toutes nos idées. Mais en fait, on n'avait personne pour les porter au sein de cette équipe-là, d'où l'idée initialement de monter les Robines, qui était vraiment un groupe pour pouvoir pousser finalement l'écologie, pour remettre une sorte de, pour faire du lobby sur les politiques, pour pouvoir faire en sorte qu'ils s'occupent de l'écologie, qu'ils s'occupent de penser différemment leur politique.
Donc, pour vous, la meilleure façon, c'était donc d'être élu directement et de siéger au Conseil.
C'est ça. Dans un premier temps, c'était même de porter nos idées, de les incarner, de forcer les autres politiques à se positionner par rapport à ça. Et de fil en aiguille, en fait, un mouvement réellement plus large s'est créé. Et donc, il y a eu vraiment une envie de porter encore plus haut ces idées-là. Et les Robines ont grossi extrêmement rapidement. On est rapidement passé à 150 personnes qui tractaient, qui réfléchissaient, qui faisaient des ateliers différents. On a essayé de faire beaucoup de choses, des ateliers participatifs, et de faire remonter finalement les idées des Narbonnais eux-mêmes. Et ça a été vraiment quelque chose de très enthousiasmant. Et on s'attendait pas, en fait, au début, à être au deuxième tour de la municipale. Mais je pense qu'il y a eu une énergie, il y a eu quelque chose qui est né à ce moment-là, qui continue, et une envie, finalement, de faire de la politique différemment, de s'approprier les codes de la ville et de plus laisser d'autres décider à notre place.
Donc, en juin 2020, ça y est, vous êtes élu. À partir de là, donc, vous êtes un groupe autonome. Forcément, vous êtes minoritaire. Alors, quel est le dilemme qui s'est posé sur le mode d'action que vous alliez suivre pour les 6 ans?
Alors, nous, il faut bien comprendre qu'on a cette idée de l'urgence climatique. Vraiment, pour nous, c'est quelque chose d'important. Il faut qu'on puisse réussir à agir le plus vite possible. C'est pour ça que, dès le début, on s'est conçu, non pas comme une opposition, mais une opposition constructive. C'est-à-dire essayer de partager des idées, essayer de travailler avec la majorité, et aussi de ne pas être au sein de la majorité. C'était vraiment l'idée de pouvoir être à la fois un lobby, à la fois acteur. C'est l'idée qu'on avait au début. Ça a été donc on a réussi au début à discuter, à essayer de travailler au sein de conseils de surveillance écologique notamment. Mais finalement, on est arrivé assez rapidement au bout de cette volonté-là. Alors nous, on garde notre posture d'opposition constructive. On essaye de questionner, on essaye de donner des idées. Mais finalement, on est quand même très on a du mal à trouver notre place, et de plus en plus aujourd'hui, parce qu'on nous donne de moins en moins la parole en conseil municipal, et c'est de plus en plus difficile finalement de communiquer.
C'est-à-dire que vous avez buté rapidement sur les limites de cette stratégie.
Quand on est constructif, il n'y a pas de problème. C'est à partir du moment où on dénonce des problématiques. Ça avait été le cas, par exemple, sur l'ISDIS. C'était un dépotoir pour les déchets du BTP qui aurait pu être construit dans les Hauts-de-Narbonne. On s'est opposé. Ça a été un premier coup d'arrêt des discussions, aimables. Et ensuite, il y a eu l'épisode de cet été autour des arbres, où on a essayé d'adopter une stratégie différente, d'appeler les conseillers, de leur dire « attention, mais là, c'est peut-être une erreur », d'essayer vraiment de travailler de façon constructive. Et en fait, on s'est rapidement retrouvé devant un mur avec l'impossibilité de s'exprimer, y compris pendant le conseil municipal. Et c'est quelque chose qui, au dernier conseil municipal, a eu encore lieu. C'est-à-dire que on se fait agresser par Monsieur le maire et on n'a pas la possibilité de répondre. Ça me semble très très éloigné en fait d'un système démocratique et constructif. Donc c'est quelque chose qui nous fait beaucoup réfléchir sur le rôle de ces assemblées, voir comment est-ce qu'on peut travailler pour toujours essayer de faire pousser ces idées, parce que pour nous c'est ça l'objectif, de faire en sorte que Narbonne se développe dans la bonne direction. Mais c'est vrai que ça questionne beaucoup.
Par exemple, pour l'épisode des arbres, alors on s'en souvient un petit peu, est-ce que on a eu un certain nombre de personnes, alors peut-être pas très bien impliquées, ont eu l'impression que ça, on avait surjoué de part et d'autre, que c'est, on donnait beaucoup d'importance à des choses qui peut-être n'en avaient pas autant que ça?
En fait, il faut savoir que quand même les arbres, quand on n'en aura plus sur les barques, parce qu'on devra les couper à cause de ce chancre coloré.
Oui, mais le chancre n'a rien à voir avec le fait de les emmailloter, je suppose.
Qu'en fait, justement, pour les emmailloter, c'est aussi pour ça qu'on avait prévenu très très tôt la municipalité, c'est qu'ils ont utilisé des agrafes qui passaient d'arbre en arbre. Il y avait effectivement des arbres qui étaient malades. Ce qu'on peut s'attendre, c'est que quand on passe d'arbre en arbre...
Vous craignez
avec des agrafes,
une contagion.
Évidemment. Et c'est même quelque chose ça veut pas dire que des arbres sont tombés malades cette année à cause de ça. Ça veut dire qu'on a pris le temps on a pris le risque de propager une maladie qui était présente. Tout ça pour emmailloter des arbres en plein milieu de l'été. Et encore une fois, quelque part, ça peut être une décision si jamais on arrive à établir une discussion. C'est-à-dire, on a les papiers, on discute, il paraît que le textile permettait de respirer, était respirant. On n'a pas eu de documents pour pouvoir se rassurer, en discuter, essayer de savoir si jamais il y avait eu un suivi avant sur les arbres d'effectuer. Donc cette discussion-là, on l'a pas eue. Ce qui explique que, le pluralisme, le respect mutuel, dans ces cas-là, il est quand même compliqué.
Oui, d'où cette surenchère, peut-être. Vous considérez que vous n'avez pas eu accès à l'information qui vous permettait de vous faire un vrai jugement?
On n'a rien eu, oui, non, on n'a absolument rien eu. Les associations n'ont pas eu non plus accès à ces informations. La DTTM, donc ce que j'ai dit en conseil municipal, je les avais eues dans la journée. Ils avaient eux-mêmes posé des questions, ils n'ont pas obtenu de réponse. Donc il y a un moment, en fait, il faut pouvoir... moi, je crois aux faits. Je crois qu'il faut être rationnel. Si jamais il y a des choses qui inquiètent des personnes, il faut pouvoir en discuter tranquillement. Après, peut-être qu'on n'est pas d'accord, mais au moins que cette discussion ait lieu. Ce qui, aujourd'hui, n'a toujours pas été le cas.
Viviane Thivant, on se retrouve après une première pause.